Cours de physique MP3 proposé par physagrec.fr. Chapitre 6, le dipôle RC. Premièrement, les condensateurs. Description du composant. Un condensateur est composé de deux conducteurs métalliques, appelés armatures, séparés par un matériau isolant appelé diélectrique. Pour symboliser le condensateur dans un circuit électrique, on utilise deux barres verticales parallèles entre elles et donc perpendiculaires au fil électrique. Charge portée par les armatures du condensateur. Petit 1, l'intensité du courant est une grandeur algébrique. En effet, comme le travail d'une force, l'intensité du courant électrique est une grandeur qui peut être soit positive, soit négative, selon les conventions utilisées dans le circuit électrique. Généralement, on prend à la charge du condensateur une intensité positive. Du coup, à la décharge, on peut dire que l'intensité est négative. Deuxièmement, deux armatures de charge opposées. Liées à la grandeur I, l'intensité du courant algébrique, on peut définir deux armatures A et B pour le condensateur. L'armature A est celle qui va recevoir le courant et qui se charge positivement lors de la charge du condensateur. Donc l'armature B est opposée à l'armature A. On écrit en charge QA égale moins QB. Troisièmement, relation entre la charge et l'intensité du courant. L'intensité du courant électrique est un débit de charge électrique, c'est-à-dire que plus le nombre de charges qui traversent une section de conducteur pendant un certain temps est grand, plus l'intensité du courant est grande. Si par exemple sur l'armature A il y a une variation de charge dq pendant le temps dt, alors on a I égale dq sur dt. Ce qui veut dire que I est le coefficient directeur de la droite q égale f de t. L'intensité du courant s'exprime en ampères, q la charge de l'armature en coulomb et t le temps en secondes. Lorsque l'intensité du courant est constante, on peut écrire I égale Q sur T. Existence de la capacité d'un condensateur, étude de la charge d'un condensateur à courant constant. Donc pour faire cette étude, on met un condensateur dans un circuit électrique avec un générateur de courant, un ampèremètre et un interrupteur. Et donc on va étudier la tension aux bornes du condensateur. Si on note les observations, on voit que la tension aux bornes du condensateur augmente régulièrement au cours du temps. On a donc un graphique U égale F de T qui est une droite passant par l'origine. Conclusion, on peut écrire donc U égale K fois T, ce qui veut dire que la tension est proportionnelle au temps. Mais on sait aussi que, vu qu'on a utilisé un générateur de courant constant, on a I égale constante égale Q sur T. Ainsi, on a donc U égale K fois T et I égale Q sur T. On peut en déduire que T est égal d'un côté à U sur K et de l'autre à Q sur I. Ce qui nous permet enfin de dire que Q sur U est égal à I sur K, I étant constant et K étant une constante de proportionnalité, Q sur U est une constante. Et bien cette constante est la constante donc de proportionnalité entre la charge et la tension aux bornes du condensateur, et elle se nomme la capacité. On a donc une formule à retenir, Q égale C fois U, grand C est la capacité du condensateur en farad, Q la charge de l'armature positive du condensateur en coulomb et U la tension aux bornes du condensateur en volts. Remarque, la capacité condensateur usuelle s'exprime généralement en sous-multiples du farad. On trouve donc des millifarads, des microfarads. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Donc un dipôle RC, c'est l'association en série d'un condensateur et d'une résistance. Un échelon de tension, c'est une tension qui passe instantanément d'une valeur 0 V à une valeur, par exemple, de 5 V. En TP, nous avons étudié expérimentalement la réponse en tension aux bornes du condensateur. Alors, on avait fait un montage électrique avec un générateur branché avec un interrupteur double position sur le dipôle RC. La première position permettait la charge du condensateur et la deuxième position shunte le générateur pour se retrouver avec condensateur et résistance uniquement dans un circuit. Lorsqu'on étudie donc expérimentalement, lorsqu'on regarde la réponse en tension donc aux bornes du condensateur lors de la charge, on voit que, alors que l'échelon de tension est instantané, eh bien le condensateur montre une tension qui passe de 0 à 5 volts, mais avec une courbe en forme exponentielle. Donc la charge du condensateur n'est pas instantanée. À présent, nous allons étudier théoriquement la réponse en tension du condensateur lors de la charge. C'est-à-dire qu'après un peu de théorie, on va obtenir l'expression de UC de T. Mais d'abord, on va établir l'équation différentielle concernant UC, c'est-à-dire une équation dans laquelle il va y avoir UC et la dérivée première de UC. On va se placer dans le cas où à T égale 0, on ferme l'interrupteur double position en position 1, la position de charge. Ainsi, on a un circuit maintenant qui est composé d'un générateur, d'un interrupteur fermé, d'une résistance et d'un condensateur, tout ça en série. On peut donc écrire la loi d'additivité des tensions, ou loi des mailles, dans ce circuit. On obtient alors UC plus UR égale grand E, puisqu'on a fléché les tensions avec les conventions générateur pour le générateur et les conventions récepteur pour la résistance et le condensateur. On va donc exprimer UR et UC en fonction de UC, puisque c'est ce que nous voulons dans l'équation différentielle. Il nous faut donc transformer la tension aux bandes de la résistance en tension aux bandes du condensateur, en tout cas trouver une expression de UR en fonction de UC. Donc on sait que Q égale C fois UC, et on sait aussi que I égale DQ sur DT. Donc on peut dériver Q qui égale C fois UC, on va obtenir I égale grand C fois DUC sur DT. Si on intègre ça dans l'équation différentielle, dans la loi des mailles, on va obtenir l'équation différentielle qui s'écrit UC plus RC fois DUC sur DT égale grand E lors de la charge du condensateur. Cette année, on ne cherchera pas de solution de ces équations différentielles, mais on vérifiera la validité d'une solution proposée. Alors par exemple, avec cette équation différentielle, on va vérifier que la solution donnée par UC égale A plus B exponentielle de moins T sur tau satisfait à l'équation donnée ci-dessus. Donc, comment on fait ? Eh bien, on va prendre cette solution, on va la dériver une fois, puis on va intégrer DUC sur DT et UC dans l'équation différentielle. On va obtenir alors une équation dans laquelle les constantes A, B et tau vont apparaître. Et on va alors travailler sur les constantes de l'équation A, B et tau pour savoir si la solution est valide. Alors quand on fait cette opération, on se rend compte que l'équation obtenue doit être valable quel que soit T. Donc du coup, il faut qu'on élimine le terme en temps, et donc ça nous permet d'arriver à la valeur de la constante tau. En fait, on trouve tau égale RC. Et donc, si tau égale RC, on trouve aussi la constante A qui est égale à E. Enfin, pour déterminer B, il faut se placer aux conditions initiales. À T égale 0, on sait que la tension aux bandes du condensateur est nulle. UC de 0 égale 0. Ça nous permet de trouver la constante B qui est égale à moins A, donc qui est égale à moins E. Finalement, la solution qui s'écrivait A plus B exponentielle moins T sur tau s'écrit maintenant UC égale E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau, avec tau égale RC. A partir de cette solution, donc UC de T, on peut trouver la réponse en courant. En effet, on a vu que I était égal à C fois DUC sur DT. Donc il suffit de dériver une fois UC pour obtenir, au facteur près C, l'expression de l'intensité. On obtient au final I de T égale E sur R exponentielle de moins T sur tau. Donc on retrouve une courbe qui est connue, c'est-à-dire une courbe exponentielle décroissante qui démarre de I égale E sur R et qui tend vers 0 quand T tend vers l'infini. On va travailler un petit peu maintenant sur les propriétés de la constante de temps. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir faire, c'est vérifier la dimension de tau par analyse dimensionnelle. Alors comment on fait ? Eh bien, on sait que tau est égal à R fois C, et il va falloir trouver donc des expressions avec R et C qui vont nous permettre d'obtenir tau à la dimension d'un temps. Donc pour R, on va travailler avec la loi d'Ohm. On sait que U égale RI, d'où R égale U sur I, donc la dimension de R, c'est la dimension d'une tension divisée par la dimension d'une intensité. On sait aussi que I égale DQ sur DT, donc DQ c'est I fois DT, d'où Q à la dimension d'une intensité fois un temps. Et on sait que Q égale CU, donc C qui est égal à Q sur U, donc C, c'est la dimension d'une intensité fois d'un temps, divisé par une tension. Au final, la dimension du produit RC donc va être obtenue en faisant la dimension de R fois la dimension de C. On obtient U et U-1, donc ça s'annule, et I-1 et I, ça s'annule également, et il nous reste que du temps. Donc la dimension de la constante de temps, c'est du temps. Pour déterminer cette constante de temps, il y a trois façons de procéder. La première, c'est numériquement. Si on connaît R et C, on calcule tau égale RC. On peut aussi la travailler graphiquement. Donc la première chose, c'est tracer la tangente à l'origine à la courbe UC de T. Cette tangente coupe l'asymptote UC égale grand E, et l'abscisse du point d'intersection entre l'asymptote et la tangente à l'origine nous donne la constante de temps, T égale tau. La troisième possibilité, c'est toujours graphiquement, regarder à quelle abscisse correspond le point d'ordonnée 0,63 E. Et donc on trouvera T égale tau. Dernière propriété de cette constante, son influence sur l'évolution du système. Plus la valeur de la constante de temps est grande, et plus le condensateur mettra du temps à se charger ou à se décharger. Une chose à savoir également, c'est qu'on considère qu'au bout de T égale 5 taux, le condensateur est chargé ou déchargé à 99%. Dernière notion à voir sur ces condensateurs, c'est l'énergie emmagasinée dans un condensateur. On peut faire la mise en évidence expérimentale grâce à un montage où on va mettre en dérivation un générateur, un condensateur et un moteur. Avec ça, on va vous mettre deux interrupteurs, un premier entre le générateur et le condensateur et un deuxième entre le condensateur et le moteur. Si le deuxième interrupteur est ouvert et que le premier est fermé, on charge le condensateur. On peut alors rouvrir le premier interrupteur, puis fermer le deuxième. À ce moment-là, le condensateur va se décharger dans le moteur et le moteur va tourner brièvement. On en conclut que c'est l'énergie qui a été emmagasinée dans le condensateur qui a permis de faire tourner le moteur. L'énergie emmagasinée dans le condensateur va s'exprimer en joules et donc est définie par la formule EC égale 1/2 de C fois UC au carré. EC est l'énergie emmagasinée en joules, C est la capacité du condensateur en farad, et UC est la tension aux bornes du condensateur en volts. Une dernière chose importante, c'est la continuité de la tension aux bornes du condensateur. En effet, comme le transfert d'énergie ne peut se faire instantanément entre le condensateur et le moteur, et que UC est lié à ce transfert d'énergie, la fonction UC de T ne peut pas être discontinue.